prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, un heureux retour.
Bien nommé, que l'on appelle la perle des paraboles. Vous avez certainement entendu parler parce qu'elle est connue même quand on n'a pas une grande connaissance biblique. Si je vous parle du fils prodigue, tout le monde connaît naturellement et bien cette histoire. Et nous allons ouvrir l'évangile de Luc, si vous voulez bien suivre. On va faire cette lecture, elle n'est pas très longue, mais je pense qu'elle est nécessaire dans ce que nous voulons tout simplement et bien évoquer ce soir sur un thème particulier, c'est la rencontre. Une rencontre, la rencontre avec Dieu, ou tout simplement, eh bien, le retour vers Dieu. Alors, Luc, chapitre 15, je vous ai dit, verset 11, et nous avons ce texte que je vais relire simplement. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Voilà la joie qui marque, eh bien, cette histoire qui commence sombrement, mais qui va trouver son aboutissement, eh bien, à travers le bonheur de se retrouver. Le bonheur du retour. Il y a un verbe qui revient assez souvent et qui est emprunté par les prophètes de l'Ancien Testament comme les écrits du Nouveau. C'est bien ce verbe revenir. Alors venir à Dieu, perdre Dieu de vue à un moment ou un autre de notre existence et revenir vers lui. Ça, c'est quelque chose qui est très beau. Et c'est précisément justement dans cette belle image que Jésus, eh bien, va nous enseigner, nous enseigne sur ce que peut être, ce que peut devenir un homme qui s'est perdu, qui s'est égaré, qui finalement a rompu, nous pourrions dire, les amarres, hein, si on prend une idée de navigation, pour tout à nouveau, eh bien, revenir là où il est parti, au port d'attache. Et c'est vrai que elle a été commentée, cette histoire. Cette parabole, elle a fait le tour du monde, elle a traversé les temps et les époques, mais elle reste toujours, eh bien, une image d'une valeur certaine. Et elle n'est pas seulement vécue dans le caractère, elle n'est pas seulement vécue dans le caractère de la foi, mais je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'hommes qui reviennent là d'où ils n'auraient jamais dû partir. et qui, quelque part, eh bien, vont faire des expériences. Et au cours de ces expériences, ou tout simplement les leçons des expériences vont les ramener à peut-être non seulement regretter, avoir des remords, mais plus que cela, parce que c'est un enseignement véritable de la Bible, à se repentir. Donc à revenir, à faire demi-tour, à se convertir, et là pour repartir pour une vie toute nouvelle, parce qu'il y a quelque chose qui domine et qui a la prééminence dans tout ce que Dieu veut se manifester dans son caractère auprès des hommes, c'est que Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu qui ne juge pas ni condamne, mais un Dieu qui pardonne avec une grande largesse à celui qui se tourne vers lui, qui revient à lui, et qui, eh bien là, veut véritablement, à ce moment-là, définitivement, veut lui faire confiance. Alors, simplement pour rappeler quelques éléments de cette parabole, brièvement, vous savez que le chapitre 15 de l'évangile de Luc comporte quatre images. Quatre paraboles. Il y a celle, tout simplement, que vous connaissez, de la brebis perdue. Il y a celle de la drame perdue, vous savez, cette pièce de monnaie qui est égarée dans la maison. Et on la cherche partout. Et puis il y a naturellement l'histoire du fils prodigue, hein, qui est au cœur de tout cela. Et puis il y a l'histoire aussi du fils aîné, c'est-à-dire le frère du prodigue, qui lui va avoir un comportement eh bien, tout à fait particulier, parce qu'il est perdu, mais lui ne revient pas. Alors, dans ces quatre paraboles, celle de la brebis perdue, elle est recherchée par le berger. Vous connaissez, hein, c'est des images touchantes. Et le berger va aller à travers, eh bien là, toute la montagne, dans l'obscurité, chercher la brebis, il va la ramener. Donc il la recherche, et il la trouve. L'histoire de la drame dont je vous ai parlé, cette drame égarée, il nous est dit que cette femme qui a égaré cette pièce qui est une valeur certaine, eh bien, va la chercher partout, elle va faire le nettoyage dans toute sa maison, elle va remuer les meubles, elle va bouleverser de toute fond en comble, et à un moment donné, elle la trouve. Et elle la recherche et elle la trouve. Quant au fils aîné, je l'ai dit il y a un instant, il est convié à rentrer tout à nouveau à la maison, dans la maison paternelle. Et lui, il est recherché, mais il refuse, finalement, de se laisser trouver. Alors, il va rester dans son obstination et il est perdu, il restera perdu. Et puis il y a le fils prodigue que personne ne recherche. Vous avez remarqué, il y a une recherche sur les trois premières paraboles dont je vous ai parlé, mais quant au fils prodigue, le père ne sort pas de la maison. Il ne va pas le rechercher là, dans ce pays éloigné où il a mené brillante et joyeuse vie. Il l'a laissé partir et il ne le recherche pas, figurez-vous. Et ça, c'est une question qui nous est posée. Pourquoi n'est-il pas recherché ? Personne ne va, eh bien, à sa rencontre pour lui dire « reviens à la maison ». Pour nous dire cette leçon, avant de commencer, c'est que ce fils prodigue doit revenir tout seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Il doit revenir tout seul parce qu'il connaît le chemin du retour. Et c'est ça. Et vous savez, si vous mettez ça dans l'histoire des hommes d'hier et d'aujourd'hui, on peut être la brebis perdue. On peut être la pièce égarée, la drame. On peut être le fils aîné, qui s'obstine. Mais on peut être également le fils prodigue, qui s'est volontairement perdu, parce qu'il l'a voulu, d'une manière déterminée. Mais il n'a pas oublié une chose, c'est qu'il connaît le chemin du retour pour la maison. Et il va falloir qu'il revienne par lui-même. Mais à travers un acte tout à fait particulier, que nous allons découvrir, que nous allons redécouvrir naturellement et que vous avez déjà eh bien compris. Il a su faire cet aller pour se perdre. Il connaît là le chemin pour se perdre. Mais il connaît aussi le chemin pour revenir. C'est-à-dire le chemin pour trouver tout à nouveau eh bien, la vraie vie. Alors, ça se présente de cette manière dans ce que Jésus nous dit. Un homme riche, probablement un homme établi, avait deux fils. Voilà les choses qui nous sont... C'est très lapidaire. Et puis à un moment donné, le plus jeune, donc le prodigue, eh bien, va solliciter son père en lui disant « Donne-moi la part de bien qui me revient. » Alors assez étonnant, parce que finalement son père n'est pas mort, il n'est peut-être pas prêt de mourir, mais lui, il avait déjà sa part d'héritage. Chose assez étrange, qui se voit de plus en plus aujourd'hui dans notre société moderne, mais donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et sans rien faire, enfin, sans rien dire, sans protester, le père leur partagea son bien. Voilà, il lui a donné sa part. Ce qui n'était pas tout à fait normal, parce que bon, en principe, un héritage, ça se fait au moment où celui qui disparaît, eh bien, lègue naturellement, et eh bien, particulièrement à ses enfants. Et voilà qu'il s'en va. Il est content, il est heureux parce qu'il s'éloigne de quelque chose qu'il connaît bien, la maison familiale, où il s'ennuie à mourir, hein, parce que c'est toujours la même chose. C'est pas drôle de vivre des choses depuis notre enfance, dans lesquelles, eh bien, on a vu tellement de choses répétitives, tellement de choses revenir, et puis il doit y avoir quand même quelque part autour de soi des choses plus intéressantes. C'est dans cet esprit que le jeune, ce garçon, ce jeune homme, part. Il se dit, moi maintenant, à moi la vie, et peut-être qu'il pourrait préciser, à moi la belle vie, et je vais m'amuser, je vais vivre comme je l'entends, parce que loin des yeux, loin du cœur, vous connaissez cette parole. Alors le père l'a laissé partir. Et puis, il n'a pas attendu très longtemps, puisqu'il nous est parlé de peu de jours après le partage, le plus jeune fille et le plus jeune fils, ayant tout rassemblé, est parti pour un pays éloigné. C'est-à-dire, il s'est dit, plus j'irai loin, mieux ça vaudra, parce que comme ça, on n'entendra plus parler de moi. Et puis, voilà, il y aura une séparation. Et là, il nous est simplement dit qu'il a dissipé son bien, mais pas de n'importe quelle manière. Il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Donc son intention, c'était de vivre et de, comment dit-on, de flamber, vous savez, de craquer, de manger la vie ou de brûler la vie par les deux bouts. Et il avait les moyens puisqu'il était riche. Alors, à ce titre, quand on est à sa place, eh bien, on a certainement beaucoup d'amis, mais quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui va lui arriver, c'est une catastrophe qu'il n'avait pas prévue. Parce qu'il avait toujours été heureux, il n'avait jamais connu de problèmes, de catastrophes, il n'avait jamais connu de difficultés dans la maison du père. Et là, dans cette situation dans laquelle il s'était mis volontairement, d'une manière déterminée, en disant maintenant, à moi la vie, et ça va être formidable et extraordinaire, il y a une chose qu'il n'avait pas prévue. C'est que Dieu est le maître du temps et des circonstances, et les choses peuvent changer brutalement, radicalement, et se retrouver, eh bien, comme il nous est dit, lorsqu'il eut tout dépensé, il n'avait pas eu la pensée de garder quelque chose, hein, lorsqu'il eut tout dilapidé, une grande famine survint sur ce pays. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas venu par les hommes, ce n'est pas venu par quelque chose qui, là, mais c'était tout simplement, eh bien, le fait des circonstances et d'événements de la nature. Plus de pain, plus de nourriture et surtout plus d'argent. Parce que s'il restait encore quelques subsistances, eh bien lui, en faisant ses poches, il n'avait plus rien. Peut-être les autres avaient-ils encore quelque chose. Et il s'est retrouvé à ce moment-là, eh bien, dans une grande détresse, cette grande famine est survenue et il a commencé à se trouver dans le besoin. Ouais. Et il a dû réfléchir. À ce moment-là, il a commencé probablement à dire, mais où est-ce que j'ai été mettre les pieds ? J'aurais peut-être pas dû venir dans ce pays. Mes amis, où sont-ils? Tous ceux avec lesquels, eh bien, j'ai vécu ceci et cela, plus personne autour de moi. Tout le monde a disparu. Vous savez, dans les jours de bonheur, souvent, nous avons beaucoup de gens qui nous entourent. Hein. Mais ils sont plus rares, et ça, c'est très triste. Hein. Lorsque nous traversons des moments de difficulté, des moments de dépression, des moments d'infortune, c'est là où on compte les véritables amis autour de nous. Ceux qui sont encore capables de nous parler, ceux qui sont capables encore de nous donner un petit coup de fil en disant « Comment vas-tu? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que véritablement, eh bien, nous pouvons te visiter ou ceci et cela ?» Mais là, il n'y avait plus personne. C'était un étranger dans un pays étranger. Alors, ces circonstances, eh bien, l'ont amené. Et croyez bien que ces circonstances l'ont amené à ce que Dieu voulait qu'il comprenne. Situation, circonstance, renversement de situation ont permis à ce garçon de réfléchir sur son état. Jusqu'alors, quand tout allait bien, sans problème et sans difficulté. Maintenant, quand on se trouve finalement au fond des choses, qu'il n'y a plus d'artifice, qu'il n'y a plus de moyens auxquels on peut se raccrocher, auxquels on peut encore, eh bien là, trouver une solution quand il ne reste plus rien, quand on est véritablement au fond, alors on réfléchit. Vous savez que dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit, ou le livre des Proverbes, il est dit ceci, « Au jour du bonheur, réjouis-toi. » Et ce n'est pas défendu de se réjouir. Mais au jour du malheur, réfléchis. Et il a été certainement frappé par ce retour de fortune, ce retour d'événements, et là, à tel point qu'il a pris conscience dans quel état il se trouvait. Jusqu'alors, il pouvait toujours se donner de bonnes raisons. Et comme il avait rompu, comme il pouvait dire maintenant, « Papa ne sait pas où je suis, il ne sait pas ce que je fais, il ne sait pas ce que je suis devenu. Eh bien, comme c'est moi qui ai pris l'initiative de marcher tout seul, en indépendant, mon père, qui est riche, toujours dans sa maison, eh bien, il ne peut pas me donner d'argent parce que je n'ose pas, moi, lui demander qu'il m'envoie de l'argent. Parce que s'il m'envoie de l'argent pour continuer, peut-être va-t-il me poser la question. Si c'est pour continuer ce que tu as fait, ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire. On ne veut pas te perdre à jamais. Alors, il était résolu, il était dans une situation complètement bloquée. C'est ni en avant, ni en arrière. Tout était face à lui. Son état, eh bien, était profondément parlant. Et vous avez remarqué avec moi, il y a quelque chose qui est frappant dans cette parabole, c'est qu'il avait quitté la maison en disant « Donne-moi ». Et son père lui avait donné. Mais quand on regarde la fin de la parabole, il va revenir à la maison en lui disant « Pardonne-moi ». Et là, c'est toute une histoire. C'est l'histoire des hommes. Ouais. Parce que Dieu nous a tout donné à la création. Pour autant que nous croyons que Dieu soit créateur. Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné le capital de la vie. Il nous a donné tout ce qui va avec la vie pour l'entretenir, pour pouvoir nous substanter, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir vivre. Et Dieu n'est pas contre le bien-être et le confort des hommes. Mais quelle ingratitude! Seigneur, donne-moi tout! Je veux tout! Et si tu ne me le donnes pas, je le prendrai quand même. Et c'est comme ça que les hommes sont tombés dans l'indépendance de Dieu, du Créateur. Celui par lequel notre souffle est rattaché, parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons le souffle de notre vie. Ce n'est pas nous. Cette humanité qui, depuis des siècles et des siècles, erre dans ce monde, sur cette terre, sur cette planète, ne cesse, finalement, de dire « Donne-moi !» Et si tu ne me donnes pas, je prends de force. Et c'est ce que l'on voit, et la société dans laquelle on est, une société où les gens sont tardis pour s'accaparer, pour prendre, voler, piller, enfin tout ce que vous voudrez, y compris par les moyens de la guerre, de toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément bien très belle, alors donne-moi. Mais il y a une chose que Dieu voit rarement, c'est des hommes qui reviennent à lui en lui disant « Pardonne-moi ». Et ça, ça nous ramène au cœur du message de l'Évangile. Et nous sommes tous au bénéfice de cette prière de Jésus à la croix lorsqu'il était suspendu sur la croix. Tous au bénéfice de cette prière. Elle est pour nous, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour tous ceux qui un jour ouvriront la Bible et comprendront cela. Allez, pour tous ceux qui écouteront précisément peut-être ce message, quand Jésus donne la première parole parmi les sept à Golgotha, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, ils nous sommes au bénéfice de cela. Alors Dieu nous a donné. Dieu nous a donné en abondance, si nous savons y regarder. Si Dieu nous a donné avec profusion, sans restriction aucune. Et qui est encore capable de le reconnaître et de lui dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Alors comme ce jeune homme de cet héritage, de ce potentiel et de ce capital vie, qu'est-ce que nous en faisons? Vous savez que notre vie, elle est précieuse. Elle a de la valeur, notre vie, aux yeux de Dieu. Je parle avec des textes bibliques, voilà, tout simplement. Et si c'est pour la dilapider, si c'est pour la gâcher, si c'est pour en faire de la vulgarité ou de la grossièreté, finalement de la perdre, alors à ce moment-là, vraiment, on peut dire que nous touchons à cet état qui est celui de l'humanité, d'une humanité sans Dieu, que l'on appelle la perdition, la mort spirituelle. Alors on y reviendra. à ce « pardonne-moi, Seigneur ». Je voudrais faire simplement une réflexion, parce qu'en entendant cela, il peut y avoir toutes sortes de choses qui montent à notre esprit, qui n'est peut-être pas le cas de notre fils prodigue, mais qui peut être aussi au fond de notre cœur. Est-ce que parfois nous pensons avoir commis une faute ou un mal impardonnable qui nous barrerait la route, comprenez, en disant « je suis trop mauvais, je suis trop sale, je suis trop ceci ou cela. » Et je ne sais pas si je peux encore être absous de mes fautes. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça, qui ont la pensée de Dieu lorsque les choses sont au pire dans leur existence, et qui disent « c'est pas possible, les autres oui, mais pas moi ». Alors écoutez bien la suite, parce que je voudrais vous dire de la part de Dieu que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et que le cœur de Dieu n'est pas le même que le nôtre, et que nous avons besoin de bien comprendre une chose, c'est que quelles que soient nos fautes, là où nous avons été traînés nos pieds, là où nous avons commis tous les tels et tels méfaits ou choses hautement répréhensibles, et vous allez voir dans la finale de cette belle parabole, c'est que Dieu est un Dieu qui pardonne absolument tout dans la mesure, à la condition d'une seule chose, c'est que nous lui demandions pardon et que nous reconnaissions notre culpabilité. Comme trop souvent notre monde et les hommes ont ce réflexe, ce n'est pas moi, Seigneur, mais ce sont les autres. Lui, il n'a pas dit ce sont les autres, il n'a pas dit c'est mon père, c'est les gens de la maison de mon père, c'est mon frère, il n'a pas dit ce sont mes copains de débauche qui m'ont lâché. Il a parlé de lui-même, il a pris la première personne du singulier, je. Alors je voudrais vous dire qu'il y a d'abord une consolation pour ceux qui écoutent la parole, c'est que Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de justice, c'est vrai. Mais sa miséricorde et son pardon sont infiniment supérieurs à son jugement. C'est l'Évangile, c'est le message de l'Évangile. Vous savez que ce garçon avait voulu vivre sa vie selon ses propres règles. Il avait balancé les règles de son père, les règles de la maison paternelle. C'était trop routinier. Et puis il y avait des choses qu'on avait envie de faire et qu'on ne pouvait pas faire parce que bon, voilà, c'était comme ça. Alors il s'était établi ses propres règles. Il en était venu à vivre ses propres choix. Et vous savez que ses rêves sont devenus un véritable cauchemar. Vous savez, le rêve, faisons attention, hein, parce que le rêve, c'est pas la réalité. Et quelquefois, il faut avoir les pieds sur terre, et certains l'ont appris à leurs dépens, c'est qu'en voulant vivre un rêve, une aventure, ils se sont retrouvés dans une situation comme celui qui nous occupe ce soir, et là, le rêve est devenu un cauchemar, à tel point qu'il a tout dépensé, il y a une grande famine, il a commencé à se trouver dans le besoin, et à ce moment-là, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Mais ce n'est pas fini. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Imaginez-vous la dégringolade. Plus ça va, plus il descend. La famine est là, pardon, et il n'a d'autre que lui, le fils de maison, celui que l'on servait, devenir, non pas serviteur, mais devenir un esclave, d'un marchand de pourceaux. Vous savez ce que c'est que les pourceaux ? Ils ont d'autres noms dans notre langage familier. Ce sont des cochons, vous comprenez, hein ? Ou les porcs, si vous voulez. Pour un juif, parce que remettons ça dans le contexte du judaïsme, imaginez-vous ce que ça pouvait être. Un juif n'aurait jamais élevé ou gardé des porcs. C'était un sacrilège. C'était pas possible. Lui, il va se retrouver dans tous les domaines, sur le plan moral, sur le plan religieux, dans tous les domaines, au plus bas de l'échelle. Et il a faim. Donc son rêve devient un cauchemar. Il a faim, parce que quand il voit les pourceaux manger, il avait tellement la faim au ventre qu'il aurait bien voulu, eh bien, là, manger un petit peu. Bien que ça ne doive pas être très comestible pour les hommes. Mais toujours est-il qu'il regardait ça en disant, mais... Et là, il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à penser à quelque chose, non pas d'un avenir, comme il avait rêvé un autre avenir, il a regardé vers le passé à ce moment-là. Quelquefois, c'est bon de regarder par où on est passé. ce qu'on a eu, ce qu'on n'a plus. Ce qu'on était, ce qu'on est devenu. Vous comprenez ? Alors, à ce moment-là, donc, il est au cœur du cauchemar. Mais il y a une qualité chez ce garçon, c'est qu'il n'a pas fui. Parce que trop souvent, les hommes, quand ils dégringolent dans une chose ou une autre, dans une passion, dans un mal ou dans un péché, ils fuient, ils se disent, bah, puisque j'y ai mis déjà la main, eh bien, allons-y complètement tout entier. Ça, c'est une réflexion. Elle vient de notre cœur, mais elle vient aussi de l'ennemi qui dit maintenant, tu sais, t'es irrécupérable. Personne ne te pardonnera, tu n'es même pas. Finalement, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Alors, c'est même pas la peine d'attendre quelque chose. Il n'y a plus de salut, il n'y a plus de secours. Il n'y a rien à faire. Il n'a pas pris la fuite. Et il était courageux, notre garçon. Vous allez voir. C'est difficile hein, de se déshabituer à un mode d'existence que nous avons choisi délibérément, qui nous a plu, mais qui maintenant nous dégoûte. Vous comprenez ? Oui. Ça lui plaisait, mais maintenant ça le dégoûtait. Il en avait horreur. Et ce mode de vie qu'il avait, quand il est parlé de débauche, vous pouvez vous imaginer tout ce que ça pouvait le comporter. Hein. L'argent, les amis, les femmes, enfin, ce que l'on veut. Hein. L'alcool, la boisson, vous savez, c'est une vieille histoire. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours été. Hein. L'homme malheureux, pour essayer de fuir, pour essayer de combler son vide, pour essayer de rechercher le paradis perdu, vous comprenez ? Alors il se donne des paradis artificiels, d'une manière ou d'une autre, en commençant par le plaisir et qui finit par la souffrance. Plaisir, souffrir. Alors, comment faire ? Alors ce mode de vie qu'il avait choisi était devenu une addiction, une prison, une drogue. Et comment a-t-il pu en arriver là ? Parce que dans les dernières phrases, nous le voyons au fond du gouffre, on le retrouve quand même dans la bauge. Excusez-moi, vous savez ce que c'est qu'une bauge ? Dans la bauge des pourceaux. Hein. Comment en est-il arrivé là ? Comment peut-on descendre comme ça ? Et quelle compagnie ? Vous vous rendez compte ? Alors, il s'est retrouvé dans cette situation. Et personne n'était là pour lui donner quoi que ce soit. Personne ne lui en donnait, mais personne ne voulait s'occuper de lui. Alors là, on est au fond. Mais permettez-moi de dire qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une belle espérance. Parce que c'est comme en matière de natation ou de plongée. Une fois que vous avez plongé, que vous touchez le fond avec le pied, vous remontez, si vous voulez. Si vraiment nous voulons remonter. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Alors, les choses nous sont présentées de cette manière. Et puis voilà que il nous est simplement rappelé au verset 17, « étant rentré en lui-même ». Qu'est-ce que ça veut dire « rentrer en soi-même » ? Eh bien, rentrer en soi-même, c'est la préparation pour revenir à la maison. Je réfléchis, je pense. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je vis quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Alors, il est rentré en lui-même et il a dit, « Mais combien d'ouvriers ou de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, alors qu'il en avait plus que même les ouvriers dans la maison paternelle ?» Et il dira, « Mais moi, ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Maintenant, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Que je sois le plus petit dans ta maison, moi qui suis, qui étais le fils, moi qui avais tous les honneurs et tous les services, eh bien maintenant, si je recommence à zéro, et si je recommence comme le plus petit de ta maison, je serai encore le plus heureux de tous. » Ouais. C'est comme ça qu'il pense, en étant rentré en lui-même. Mais en pensant cela, il y avait peut-être une question qui l'obsédait. C'était matérialiser ce retour. Comment faire pour faire le premier pas ? Comment faire lorsqu'on s'est tellement éloigné, qu'on a perdu de vue finalement eh bien, le chemin, qu'on ne sait plus tellement qui est qui dans tout ça, et on a perdu même sa propre identité personnelle, sa propre identité. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut faire ? Et cette question devait le tarauder. C'était ce désir de retour, mais comment va-t-il être accueilli ? C'est ça la question. Quel accueil si je reviens ? Et imaginez-vous ce garçon, s'il en était à vouloir à se vautrer dans la bauge des pourceaux, imaginez-vous un petit peu l'état physique dans lequel il était, qui n'était que le reflet de son état moral, son état psychologique, et que dire de son état spirituel, il ne devait plus rester grand-chose. Et voilà. Dans quel état je suis ? Lui, il se voyait, les autres ne le voyaient pas encore. Quel état je suis ? Est-ce que je dois faire le pas et revenir comme ça ? Je n'ai même pas d'argent pour m'acheter un vêtement. propre pour rentrer. Je n'ai même pas suffisamment d'argent pour m'acheter des souliers pour faire le chemin, puisqu'il nous est parlé d'un pays éloigné. Je n'ai rien du tout. Je vais me présenter devant mon père avec des oripeaux de misère. Je suis véritablement maintenant qu'un mendiant, comme on peut dire, pourrait-on dire, un gueux. Comment je vais? Ça devait être vraiment son problème. Alors il le dit. Et il le fait. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà. Deuxième remarque que je voudrais faire autour de cette question. Vous savez que notre vie peut changer du tout au tout, quel que soit l'état, la situation, les circonstances dans lesquelles nous sommes. Si nous avons le courage de dire, je dis bien, c'est du courage, je me lèverai et j'irai. Et ça, il faut le faire. Ça, véritablement, c'est le miracle de Dieu. Savez-vous que le principe même de ce rapprochement de l'homme avec Dieu, ça s'appelle la repentance. Et je voudrais vous dire, parce que ce n'est pas un scoop, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être dit et redit, c'est qu'encore c'est Dieu qui nous fait la grâce de nous repentir. Autrement, on ne pourrait pas. De prendre conscience que nous avons mal fait, que nous avons indifféré Dieu pendant des années et des années, mais que c'est encore Dieu dans son amour qui nous donne le coup de pouce dans notre cœur pour reconnaître nos erreurs et de vouloir les avouer, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est une tristesse selon Dieu, selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas du remords, ce n'est pas du regret pour un temps. Et la repentance, c'est vraiment une expérience spirituelle qui est la plus belle, c'est celle qui nous ouvre la porte. C'est celle qui nous donne la joie, c'est elle qui nous ramène la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et la repentance, c'est l'Esprit de Dieu qui l'accomplit en nous. Les uns et les autres qui avons passé par cette expérience, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. C'est Dieu qui m'a fait grâce, tel que je suis. Je parlais encore dans une visite préparatoire à l'engagement d'une personne pour suivre Jésus. La personne me disait, mais je ne suis pas encore assez bien pour m'engager. Ben, je lui ai dit, tu peux attendre longtemps avant d'être bien pour t'engager. C'est un acte d'obéissance et de foi. Tu viens tel que tu es, le Seigneur va te recueillir, le Seigneur va t'accueillir et il va te donner les forces, tout ce que tu as besoin. N'attends pas d'être bien. Tu viens tel que tu es. Parce que Dieu a le pouvoir, finalement, de changer le mal en bien, seulement lui. Et on ne se rachète pas soi-même en compensant le mal que nous avons fait par le bien que nous pouvons faire après. Non, ça ne marche pas. On n'a aucun mérite. C'est une grâce de Dieu. Et c'est pour cela que la conversion à Jésus-Christ, c'est un bouleversement, une révolution, c'est un séisme, c'est un tsunami, c'est tout ce que vous voudrez. C'est un bim-bam, si vous voulez, dans la vie d'un homme, où là, tout est renversé. Et à ce moment-là, on se dit, mais je suis sauvé, mais c'est à cause de la grâce et de l'amour de Dieu. Et vous savez, il n'y a qu'une chose qui peut nous vaincre. Plus que la violence et la guerre, c'est l'amour. Et là, à ce moment-là, nous sommes confondus. Mais comment je peux être aimé encore? Comment Dieu peut-il m'aimer? Comment je peux être maintenant une nouvelle créature? Comment je peux naître de nouveau? C'est formidable et merveilleux. Alors, il a eu le courage de dire, je me lèverai et j'irai. Donc c'est un acte de volonté. Ce que nous avons besoin ce soir d'apprendre, c'est que nous avons besoin d'avoir une volonté qui soit raffermie, qui soit rétablie, qui soit ranimée, qui soit vivifiée et confortée, encouragée. Comme Jésus le dira à un homme, qui lui, c'était une maladie physique, à la piscine de Bethesda, il était boiteux de 38 ans, depuis 38 ans, et Jésus lui dira simplement cette question, « Veux-tu être guéri ?» Eh bien, la même question peut être posée dans le cadre de notre réflexion ce soir, « Veux-tu être pardonné ? Veux-tu être délivré de toutes tes misères ? Veux-tu être sauvé ? Veux-tu revenir à la maison ?» Tout simplement. Seigneur, donne-moi cette volonté. Ma volonté est tellement faible devant le mal. Ma volonté est tellement vaporeuse que je dis oui maintenant et puis dans quelques instants je vais dire non parce que tout ça, ça change. On a besoin d'être guéri dans notre volonté. Veux-tu être guéri dans ta volonté? Puis je vais terminer par trois pas vers la délivrance et la liberté et le pardon de Dieu. Le premier pas, c'est de décider, comme il l'a fait, quand il dit « je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai », c'est de décider de reprendre le contrôle de nos dérives dont nous sommes conscients et de nos égarements. C'est quand il s'est trouvé dans la misère, dans la faim, dans la bauge, au pourceau, que là il s'est dit « faut que ça s'arrête, faut pas que ça aille plus loin, autrement je vais finir par en mourir, je vais me perdre complètement et totalement ». Alors à ce moment-là, quand il a touché le fond, il s'est dit « maintenant non, il faut reprendre la bonne direction ». Et il faut le faire, parce que c'est nécessaire, et Dieu va nous donner la force de le faire avant que les circonstances ne s'en chargent et nous détournent encore plus loin. Parce que le but, finalement, de notre adversaire, quand il voit que nous nous approchons de Dieu, c'est de nous pousser encore plus loin. Pour que nous puissions, eh bien, qu'il n'y ait plus aucun espoir. Je voudrais quand même dire ceci, c'est que la solution d'un retour à la maison commence toujours en nous. Comprenez ? En nous, c'est dans notre cœur, et non pas en raison de notre environnement, parce que l'environnement dans lequel nous sommes souvent mis nous-mêmes, nous sommes les artisans, parfois, de notre misère, cet environnement est négatif, et il est destructeur, et il ne faut rien attendre de négatif et de destructeur. Il y a une chose qui nous donne d'entrevoir avec les yeux de notre cœur, c'est la foi, parce que la foi nous fera toujours voir le positif, et ce qui fait vivre et ce qui édifie, et non pas ce qui est la mort, mais toujours la vie. Ça, c'est la nuance. Alors ne cherchons pas des excuses et des prétextes pour justifier les montagnes de problèmes qui encombrent notre vie. Parce que quelquefois, sans nous apercevoir, tant que tout allait bien, on a marché, puis quand on se retourne et que tout va mal, on se dit « mais ça me donne le vertige parce que je me suis mis dans une situation ». Souvent, ce sont des dettes. Quelquefois, ce sont des désamours. Quelquefois, ce sont des rejets. Quelquefois, ce sont des violences. Toutes sortes de choses. Ou une addiction. Ou quelquefois, une passion qui nous tient à travers quelque chose dont nous aimerions bien nous séparer, mais qui, elle, nous tient comme une prison, vous comprenez? Alors, à ce moment-là, eh bien, il ne faut pas chercher des excuses. Je suis comme ça. J'ai fait ceci. Parce qu'on regarde et on s'aperçoit que ce sont des murailles, ce sont des montagnes, ce sont des choses impossibles que l'on a devant et on se dit « mais comment vais-je m'en sortir ?» Alors si vous pouvez vous en sortir vous-même, si vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même, je voudrais simplement vous préciser que c'est bien. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas compter sur vous, ni compter sur les hommes, mais vous allez crier à Dieu et là, il va vous répondre. Et lui, il ouvre les montagnes, comme il a ouvert la mer Rouge aux Hébreux quand ils sortaient d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était une montagne, hein. 430 ans d'esclavage, c'était une montagne. Mais Dieu est capable d'ouvrir nos mers rouges. Il est capable de fendre les montagnes pour nous faire passer. Parce que ça encombre notre chemin. Vous savez, tout est surmontable par le cri de la foi. Ouais. Je dis bien la prière de la foi. Le cri de la foi, « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi. » Le deuxième point qui nous amène vers la liberté, c'est affronter la réalité de notre condition, si déplorable soit-elle. On parlait de montagne tout à l'heure, qui encombre le chemin du retour pour rentrer à la maison. Alors, il faut être réaliste, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter d'épiloguer sur d'hypothétiques solutions, et ceci et cela. Il n'y en a qu'une. Ce n'est pas les solutions de la terre qu'il nous faut regarder, c'est les solutions qui viennent du ciel. Celles qui viennent du ciel. Mais pour cela, il ne faut pas s'apitoyer sur soi-même. Parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais je suis tellement malheureux ». Alors on a pu être malheureux par soi-même, parce qu'on s'est rendu malheureux. On a pu être malheureux parce que des gens méchants nous ont rendu malheureux avec leur injustice et toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort. C'est pas possible. Et pour cela, il faut accepter nos erreurs, on l'a déjà dit. Et renouer le lien de secours qui nous relie à Dieu, et sans concession, sans sentimental, des plaisirs néfastes, qui n'étaient en fait que des mirages et des illusions du bonheur. Ouais. Ce garçon s'était fait une illusion du bonheur, quand je serai parti de la maison paternelle, j'aurai de l'argent, j'ai de l'argent, je vivrai ceci et cela. Ce n'était que des mirages. Mais il a déchanté à un moment donné. Puis troisième point, je voudrais terminer sur cela, c'est qu'il est encore temps de revenir à la maison, parce que les choses mauvaises n'évolueront jamais en bien et en bienfait. Quand on a mis le pied sur un chemin où c'est mauvais, n'attendez pas que ce chemin change. C'est vous qui allez changer de chemin. C'est vous qui allez changer de voie et de route. Elles ne changeront pas par elles-mêmes. Ce qui est mauvais reste mauvais. Par contre, nous pouvons avoir un cœur qui change par une décision volontaire, déterminée. Et tant que l'on restera éloigné du Père, tant qu'il est resté éloigné de son Père, tant que l'homme et l'humanité restera éloignés de son Dieu, eh bien nous resterons malheureux. Est-ce que le bilan est globalement positif de cette humanité qui se traîne depuis des siècles et des siècles, d'une guerre à une autre, d'une famine à une autre, de l'égoïsme qui envahit le monde, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'homme qui fait de son semblable un esclave, à travers toutes sortes de pensées qui sont odieuses, telles que l'extermination ou le racisme et toutes sortes de choses. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ce n'est pas le paradis, hein? Ce n'est pas le paradis. Et pourtant, ce Père, il guette notre retour pour nous accueillir. Parce que il est toujours temps. Il est toujours temps parce que quelqu'un nous attend. Ouais. Quelqu'un nous attend à la maison. Alors il est dit qu'à ce moment-là, il s'est levé. Et comme le Père était encore, comme il était encore loin, le Père le vit et fut ému de compassion. Et c'est le Père lui-même qui a couru au devant de son fils pour se jeter à son cou et l'embrasser. Quel accueil ! Mais c'est l'accueil que Dieu veut réserver à tous les hommes qui reviennent à lui, qui veulent reprendre leur place dans la maison. Est-ce que vous voulez reprendre la maison dans la maison? Est-ce que vous voulez reprendre votre place dans la maison de votre Père céleste? Est-ce que vous voulez réellement devenir un chrétien ou une chrétienne? Est-ce que vous voulez devenir un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez devenir un fils ou une fille de Dieu? Est-ce que vous voulez devenir un enfant de Dieu? Mais la maison est ouverte et Dieu nous attend. Mais comme nous en savons le chemin par ce que nous avons dit ce soir, alors c'est à nous d'y aller. Mais le Père nous attend à la porte. Et croyez bien qu'il ne nous attend pas avec le jugement et la condamnation. Mais regardez, il a embrassé son fils. Le fils lui a avoué sa faute. Et le Père a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ça, c'est l'image de la vie nouvelle, d'une justification qui nous est donnée parce que toutes nos fautes et tous nos péchés sont pardonnés. Une vie nouvelle, une robe. Elle est propre, elle est immaculée, cette robe. Revêtez-le, mettez-lui un anneau, tu vois, c'est le signe de l'alliance. Quand on est marié, eh bien, on a une alliance. Enfin, voilà. C'est un signe qu'on est uni à quelqu'un d'autre. Et là, c'est l'union entre cet homme qui revient dans la maison du Père et qui a fait alliance avec Dieu, et Dieu a fait alliance avec lui. Un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Lui qui avait pris le chemin pour s'égarer, Dieu lui dit, maintenant je vais te donner des chaussures, mais tu marcheras dans le bon chemin. Parce que les chaussures, c'était pour marcher, vous comprenez? C'est pas fait pour s'égarer, c'est pas fait pour autre chose. Alors, le Père dira, mais réjouissons-nous, parce que mon fils qui était perdu, il est revenu. Mon fils qui était mort est revenu à la fille. Il était perdu, mais maintenant il est retrouvé. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Elle est belle cette parabole, hein? Elle est magnifique. Eh bien, on va prier. On va prier maintenant, parce que ce Père céleste, eh bien, attend tous ceux qui sont disposés à aller vers lui et à les accueillir et à les bénir. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que quelle belle parole que la parole du Fils prodigue. Nous savons, Seigneur, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et par-delà les mots d'un homme, par-delà les explications d'un prédicateur, Seigneur, il y a quelque chose qui est fort, c'est l'action de ton Saint-Esprit. Et cela, c'est invisible. Tu parles dans les cœurs, tu parles dans les vies, tu parles aux consciences. Et puis, nous pouvons tellement bien nous reconnaître, que l'on soit en effet un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune femme, croyons, Seigneur, qu'il y a toujours quelque chose qui nous ramène à ressembler à ce fils prodigue, à la recherche d'une hypothétique liberté qui est finalement un emprisonnement, à la recherche d'une vie pleine, une vie d'aventure. Oui, Seigneur, mais souvent les aventures se terminent dans une situation tellement épouvantable, tellement misérable, qu'à ce moment-là, nous prenons dégoût même de notre propre existence. Alors s'il y a la pensée de revenir à la maison, s'il y a la pensée de renouer, Seigneur, avec ce lien essentiel du bonheur qui est Dieu, eh bien, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Dans la mesure où tu confortes notre volonté et que nous pouvons dire « Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai ». Alors ça, c'est la confession. Tout simplement, reconnaître nos fautes et lui dire que nous avons besoin de son pardon. Et avec le pardon arrive la joie. Avec le pardon, Seigneur, nous trouvons la paix, Seigneur, de notre conscience, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre vie en général. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu fais ton œuvre maintenant, au fond des cœurs, dans les vies, dans les consciences. Oui, Seigneur, tu frappes à la porte et tu nous demandes simplement si nous voulons ouvrir. Et si nous ouvrons, Seigneur, eh bien, c'est toi qui nous donnes la robe de la justification dans notre foi en Jésus-Christ. C'est toi qui fais alliance tout à nouveau avec nous, nous qui avons brisé l'alliance. Eh bien, tu nous donnes une nouvelle alliance, donc une nouvelle vie. Puis tu nous donnes, Seigneur, pour notre marche nouvelle, des souliers, Seigneur, qui nous conduisent dans les sentiers, Seigneur, qui sont les tiens, les sentiers de ta volonté pure, vraie, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Bénis-nous, Seigneur. Remplis nos cœurs et parle-nous encore. Par-delà les paroles, nous croyons qu'il y a l'action. Seigneur, puissante de ton esprit, dans chacun d'entre nous, Seigneur. Et là, Seigneur, tu fais ton œuvre. Alors nous voulons te dire, eh bien, Seigneur, maintenant je me lève. Je viens vers toi. Et je te dis tout ce qui s'est passé dans ma vie, des choses que tu connais déjà, mais Seigneur, dont tu veux me délivrer, dont tu veux véritablement me purifier, afin que je sois une nouvelle créature, un homme nouveau. Merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus, pour ta parole merveilleuse. Amen.